Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment, dans cette émission, nous allons aborder les sujets ci-après? Comment prévenir les abus constatés lors de la démission d'un gouvernement? On en parle avec Ernest Parero, président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. Et nous aurons également Henri-Christian Longenja, expert en éducation civique. Des questions et préoccupations par rapport à ces sujets, appelez déjà au 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiokapi.net. Et dans la seconde partie de cette émission, nous allons parler des zones humides, comment les protéger. François Kalouele, promoteur du Centre des recherches, d'études et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique, sera des nôtres. Nous aurons également le professeur Corneille et Wanga, écologiste. Des questions et préoccupations, eh bien, composez les 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Polydor Bansunga, la mise en onde. Tati Mapuku assure la réalisation et la coordination de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir les abus constatés lors de la démission d'un gouvernement? Eh bien, en RDC, certains abus et antivaleurs sont souvent enregistrés lorsqu'un gouvernement est déclaré démissionnaire. Certains ministres signent rapidement des arrêtés pour caser leurs proches au sein des ministères. Par ailleurs, les biens de l'État tels que les véhicules, maisons et autres biens publics sont emportés, aliénés. Des missions, des services sont programmées au sein des cabinets rapidement pour voir comment s'en tirer avec une bonne somme d'argent en poche. Alors que faire pour prévenir ces genres des situations qui reviennent souvent? Nous avons en ligne Ernest Parero, président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, et nous allons également recevoir tout à l'heure Henri-Christian Longenja. Ernest Parero, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Henri-Christian Longenja est aussi en ligne. Bonjour Henri.
Bonjour Jody, bonjour Ernest et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bien, Ernest, nous parlons aujourd'hui des abus constatés lorsqu'un gouvernement est déclaré démissionnaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les cabinets. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre cela sur le compte des abus ou des antivaleurs?
Effectivement, ce sont des antivaleurs. Et tout cela, c'est parce que nos lois sont effectivement trop faibles. La loi sur la déclaration des biens, par exemple, qui stipule que à la sortie, à l'entrée et à la sortie d'un ministre ou du président de la République ou du premier ministre, tous ces mondes-là doivent déclarer leurs biens. Aussi longtemps que cette loi n'est pas mise en application, effectivement, on arrive à ce genre d'antivaleurs, on arrive à ce genre d'abus.
Voilà. Donc on arrive à ce genre d'abus lorsque les biens ne sont pas déclarés. Mais la loi est là, lorsque les ministres entrent, on ne déclare pas les biens?
Effectivement, la Constitution stipule que lorsque le ministre du gouvernement et le président de la République entrent en fonction, on doit déclarer le bien auprès de la Cour suprême, de la Cour de cassation aujourd'hui, et la Cour de cassation doit transférer les informations à la DGI. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que depuis qu'on a voté cette Constitution, la loi de mise en application de ces déclarations-là manque. C'est ce qui fait effectivement que, aussi longtemps que cette loi manque, les ministres, les autorités, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, ils apportent meubles, tapis, ordinateurs, et c'est ce qu'on est en train de déclarer. Vous vous souvenez même, il y a un moment, au niveau de la primature, il y avait un premier ministre qui était en fonction, qui voulait prendre même des jeeps de la primature. Ils se sont heurtés avec la police qui était affectée à la primature, la garde à la primature, et ça créait tout un buzz au niveau des réseaux sociaux. Donc ce genre de choses, nous devons les prévenir par la loi. Il faudrait que la loi, si la déclaration des biens soit bien établie et que chaque autorité respecte et qu'on applique ça, à ce moment-là, vous verrez que on ne peut plus avoir des genres de communiqués de la présidence qui interdit, ça on n'en aura pas.
Bien, Henri-Christian Longenja, comment expliquez-vous ce phénomène-là? Parce qu'on sait qu'on veut partir, bon, on signe des arrêtés, on case les membres de son cabinet un peu à gauche, à droite, et les gens s'organisent pour emporter les véhicules, les tapis, les ordinateurs et les biens de l'État.
Oui, effectivement, je pense qu'à la suite de mon frère Ernest qui évoquait aussi la question de la loi, en fait, la loi, elle est là, mais comme Ernest le disait tout à l'heure, les mesures d'application ne sont pas encore prises pour que ça, les déclarations faites lors d'entrée au pouvoir et transférées au Conseil d'État soient rendues aussi publiques. Vous savez, les auditeurs doivent savoir que nous qui militons pour la transparence, pour les questions d'accès à l'information, nous avons toujours réclamé que cette publication-là des déclarations ne se limite pas seulement à verser les dossiers ou les fardes au niveau de la Cour de cassation, à l'époque pour la Cour de cassation, mais que ça soit rendu public et pourquoi pas même publié au journal officiel et que tout le monde sache que tel ministre, lorsqu'il est entré, il avait une maison, lorsqu'il est entré, il était locataire et ainsi de suite, et qu'à la sortie, qu'on puisse aussi faire les mêmes déclarations, et ce qui va permettre que la société civile qui fait le contrôle citoyen puisse faire vraiment le monitoring pour savoir si réellement ce que le ministre va déclarer à sa sortie est conforme à son avoir qu'il a encaissé. Alors l'autre problème, c'est que nous n'avons pas vraiment les hommes d'État. La plupart, ce sont des gens qui sont des affairistes. Quand on entre, on prend le pouvoir, on devient ministre, c'est le monde des affaires, la politique est devenue business. Et lorsqu'on sort avec cet esprit-là de businessman, on sort et on emporte tout, malheureusement. Parce que si on a vraiment les hommes d'État, des patriotes qui aiment bien ce pays, à la sortie, on ne peut pas vivre ce que nous vivons. Souvent, on prend des jeeps, on prend même des manquettes, mais des machines, tout est parti. Et nous qui suivons de plus près la gouvernance du pays, vous allez voir que même les mots de passe des adresses e-mail sont partis. Les gouvernements qui entrent doivent créer sa boîte e-mail. Donc, ce n'est pas que les biens. Il y a même les outils de gestion de l'administration du ministère qui partent. Et la continuité de l'État pose problème et du coup, ça fait une fissure. Alors que lorsqu'ils vont sortir, ils auront les indemnités de sortie. Ceux qui vont entrer maintenant, au lieu d'hériter les mêmes investissements ou les mêmes matériels que le prédécesseur avait pour assurer la continuité de l'État, du coup, l'État doit encore dépenser davantage pour installer encore les nouveaux. Et ce qui est encore bizarre, vous allez voir que le ministre qui sera reconduit, bien qu'il ait reconduit le même gouvernement, il va encore réclamer les frais d'installation parce que c'est nouvel étape, nouveau investissement pour lui. Et tout ça, ça pose problème. Donc, moi, je pense que le vrai problème ici, c'est que, comme disait Ernest, le problème de la loi. La loi qui exige la déclaration des biens à l'entrée, à la sortie, jusque-là, les mesures d'application ne sont pas encore prises. Et nous comprenons pourquoi ce n'est pas encore pris. Parce que ce sont les mêmes politiques, mais ils ne veulent pas parce qu'ils savent que lorsque je suis entré, je suis locataire, je vais sortir, je deviens propriétaire d'autant d'immeubles, Mais si j'avais déclaré que j'étais locataire et qu'à la sortie, je suis locataire d'autant d'immeubles, d'autant d'étages,
propriétaire,
de suites, oui. Et de propriétaires, pardon. Et à ce moment-là, on va me demander, mais votre salaire, c'est de combien? Est-ce que vous étiez capable, par rapport à votre salaire, pour autant de mois que vous avez passé comme ministre?
D'où on ne déclare pas, il refuse de déclarer.
Même à la sortie, on ne déclare pas. Et c'est ça le problème. Et moi, je dis, tout ça, c'est le problème vraiment de la justice, et que même la Cour des comptes, même l'IGF qui semble faire le travail, et on a dans ces pays un service de renseignement financier. Nous avons toujours déclaré qu'on est un parquet financier et que la Cour des comptes dit que le parquet prêt et la Cour des comptes fait l'office du parquet financier. C'est un débat, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça?
Voilà. Bien, Henri-Christian, permettez qu'on puisse accueillir... Henri-Christian, on va accueillir un auditeur, Jean-Pierre Passois, de Mikalaï, au Kassai Central. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, cher journaliste, je dis Daniel Kachama.
Bienvenue dans cette émission. Quelle est votre préoccupation, Jean-Pierre?
Monsieur, je dis vraiment, c'est déplorable chaque fois que le gouvernement est réputé démissionnaire. Il y a toujours des mouvements malsains tentés d'esprit de vol et de détournement des biens. Vraiment, c'est ridicule pour ce grand pays. Monsieur, je dis vraiment... L'article 99 de notre constitution est clair.
Jean-Pierre, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur. Nous avons un retour à l'antenne. Si vous êtes à côté de la radio, merci de vous en éloigner, ou bien vous pouvez diminuer le volume. Allez-y.
Ce que je dis vraiment, c'est ridicule pour notre pays. Si, dans l'article 99 de notre constitution, tout est clair là-bas quant à ce que je dis. Surtout à son alinéa premier et troisième. Cet article n'a jamais été mis en application jusqu'à ce jour. Seulement pour des fins politiques, la volonté politique qui en manque vraiment. Je peux un peu citer, parler de cet article. Je cite, vraiment, avant l'entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, arts sociaux, obligations, autres valeurs, comptes en banque, biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations, terres agricoles, mines et tous les autres immeubles. Je passe à l'idée 3. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en ayant les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.
Alors, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Comme on n'a pas beaucoup de temps, quelle est la question que vous adressiez aux invités rapidement?
Bon, ma question, ma préoccupation est que cet article soit mis en application pour la bonne marche de notre pays, aussi pour la bonne marche de nos institutions et surtout le gouvernement, qui, à des fois, les membres du gouvernement sont tentés à manipuler les biens de l'État.
D'accord, merci. Merci Jean-Pierre. Merci. Je vais lire la réaction de Chico Bassa de Kinshasa sur la page Facebook d'Okapi Service. De telles situations se répètent à tout moment parce qu'il y a un laisser-aller. Il n'y a pas de poursuites judiciaires contre les détourneurs. Je félicite les chefs de l'État à travers son DICAP d'avoir pris des mesures conservatoires pour que celui qui va aller à l'encontre de ces mesures puisse répondre de ses actes. Ernest Imparero.
Oui. Effectivement, comme vous le savez, on ne veut pas appliquer l'article que notre confrère de Kassai venait de dire, la déclaration des biens. Et c'est quelque chose qui pourrait satisfaire tout le monde, étant donné que ce soit les fonctionnaires de l'État, que ce soit les magistrats, que ce soit le ministre, tous les hauts fonctionnaires de l'État devraient déclarer leurs biens. Pourquoi on ne se limite pas seulement au ministère ou au gouvernement? On peut aller même jusqu'à tous les chefs de bureau pour qu'ils déclarent leurs biens et que chaque année, il y ait une structure indépendante qui pourrait contrôler est-ce que pendant un certain temps, la personne qui a déclaré ne s'était pas enrichie illégalement. Et cette structure pourrait collaborer avec d'autres structures pour effectivement prévenir des cas d'abus. Et à ce moment-là, la personne pourra être convoquée pour dire, écoutez, comment est-ce que tu as eu ces biens avec ton salaire? Mais les mesures que les IRCA venaient de faire, oui, ce sont des mesures préventives, mais qui n'est pas pérenne. Nous devons avoir des mesures pérennes, et ce n'est que la loi qui peut faire que nous ayons des mesures pérennes. Que tout le monde, que tu sois ministre provincial, que tu sois gouverneur, que tu sois ministre au niveau central, que tu sois bourgmestre, que tu sois chef de collectivité, vous devez déclarer parce que vous avez un mandat. Donc, je pense que nous, au niveau de la LICOCO, on va effectivement s'adonner à cet article. Nous allons voir comment est-ce qu'on va introduire une proposition de loi pour faire appliquer l'article 99, alinéa 2 et 3 de la Constitution.
Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure pourquoi, si ces pratiques se répètent, c'est parce qu'il n'y a pas de poursuites après.
Effectivement, c'est lorsqu'il y a des enquêtes objectives qu'on peut poursuivre. Vous vous souvenez, la même mesure que le DIRCAB actuel a prise, c'est ce que Vital Kamerhe avait pris. Mais lors du procès de Vital Kamerhe, on nous a dit que non, sous la haute hiérarchie, c'était quelque chose qu'il a manipulé. Mais maintenant, est-ce que la mesure prise par le directeur des cabinets, est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient du président Tshisekedi? Parce que dans le procès Kamerhe, on nous a, vous aviez suivi avec nous, qu'on a reproché à Kamerhe d'avoir utilisé abusivement l'autorité, la haute hiérarchie, pour s'enrichir lui-même. Mais maintenant, c'est la question que nous pouvons poser aujourd'hui, que nous posons au directeur des cabinets de Tshisekedi. Est-ce que cette mesure vient de lui ou est-ce que cette mesure vient du chef de l'État? Or, pour résoudre tous ces problèmes, pour résoudre toutes ces manigances-là, ce n'est que la loi qui peut résoudre tout cela. Et l'article 99 pourra nous permettre effectivement d'avoir une loi sur la déclaration des biens.
Bien, Albert Mwananga nous a écrit sur Facebook, je suis désolé de faire ce constat lorsque le gouvernement passé de l'accord du 31 décembre où l'un des membres était contraint à laisser les biens de l'État. Dans d'autres provinces, on assiste à ces phénomènes où les ex-ministres et autres membres du gouvernement démissionnaires veulent s'accaparer de tous les biens de l'État, les chaises du bureau, les ordinateurs, même les rideaux. C'est déplorable et désolant. Un bon citoyen est celui qui se respecte et respecte les biens de l'État. Il est important, avant d'entrer en fonction, que les membres du gouvernement puissent déclarer leurs biens afin de les évaluer après service. Henri Christian Longenja, il y a aussi les décrets que les ministres prennent pour nommer. Ils font des nominations rapidement dans les services qui sont dans leur secteur. On nomme les membres des cabinets et autres proches à gauche et à droite. Est-ce que cela est à mettre aussi sur le compte des antivaleurs, Henri Christian?
Oui, effectivement, je pense que c'est directement parmi les antivaleurs. Mais si vous permettez que je revienne un tout petit peu en arrière par rapport à la déclaration des biens. Si on demande à la Cour constitutionnelle à l'époque et actuellement la Cour de cassation, ils vont vous dire du coup que les ministres ou les membres du gouvernement font la déclaration des biens. On les voit, on a vu les chefs de l'État les déclarer, ainsi de suite. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tout ça sont des formalités. Parce que moi, je pense qu'il ne suffit pas seulement qu'on aille déclarer que voilà, j'ai ça, et que même si on envoie au niveau du fisc, c'est le fisc qui est pris en otage par les politiques, parce qu'aujourd'hui, la politique a pris tout en otage, et même le numéro 1 de la DGI, là, on va faire, où la Cour va transférer toutes ses déclarations, il est sous l'autorité du ministre des Finances, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et moi, je pense bien qu'aujourd'hui, quelles que soient les mesures conservatoires prises par le chef de l'exécutif à travers son directeur du cabinet, moi je me dis, la solution aujourd'hui, c'est vraiment aller en profondeur dans la rigueur de la loi. Et que je me dis, le détournement ou le vol que font nos autorités ou sont nos membres du gouvernement, c'est à deux manières. C'est un détournement matériel et intellectuel. Matériel dans ce sens, c'est qu'on prend tout ce qui est meuble, argent, ainsi de suite, on vide les caisses. Et intellectuel dans le sens, c'est que quand on parle même des engagements, vous savez que c'est à cette période que certains ministres, parfois, signent des arrêtés en antidata, alors qu'avant, ce n'était pas ça. Et du coup, vous verrez que Lorsqu'un nouveau gouvernement va entrer, les gens se présentent au niveau des secrétariats, généraux avec des arrêtés déjà antidatés pour avoir des notifications, tout en disant que non, on n'avait pas ça avant, alors que ce sont des pratiques tout simplement pour caser les leurs par-ci par-là, les membres du gouvernement ou les cabinets, les caser par-ci par-là. Donc tout ça, ce sont des antivaleurs qu'on est en train de déplorer. Et que moi, je pense que on a tenté, on va dire que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation reçoivent toutes ces déclarations, mais pour en faire quoi? C'est, voilà pourquoi, en plus de la loi qui doit sous-tendre l'article constitutionnel qui déclare, qui exige la déclaration des biens à l'entrée à la sortie, mais moi je pense que pour plus d'efficacité, aujourd'hui c'est le contrôle citoyen qui a montré ses forces, et que si nous pensons que aujourd'hui même les 100 jours, le programme de 100 jours, mais ou tout autre programme, ça, le détournement des deniers publics avec plusieurs projets, ou Kangalozo, l'éducation, ainsi de suite, ont eu des échos, c'est à cause du contrôle citoyen fait par la société civile. Et que la société civile est limitée parce que cette société civile n'a pas accès aux informations. Voilà pourquoi nous militons toujours au niveau du collectif 24, nous disons, il faut qu'il ait la loi d'accès à l'information. Parce que si cette loi était là, même si on transférait ces dossiers de déclaration au fisc, chaque citoyen irait voir au niveau du fisc, est-ce que je peux avoir les documents de déclaration des biens de tel ministre à l'entrée tout comme à la sortie. Parce que maintenant, nous allons faire l'évaluation de leurs actions, de leurs avoirs, si bas de quoi, parce que nous ne connaissons pas ce qu'ils avaient à l'entrée et ce qu'ils ont maintenant à la sortie. À l'entrée, nous avons vu les gens qui n'avaient même pas des associations. Mais du coup, pendant la fonction, on a vu tout le monde des fondations telles, fondations ceci, on crée des fondations, on devient des bienfaiteurs, alors qu'avant d'accéder au poste, il n'y avait rien de tout cela. Donc tout ça, ce sont des actes de corruption et ça frise le détournement des biens publics et ça devient plus grave à la sortie parce que quelqu'un n'est pas sûr qu'il sera... renouveler, surtout que nos sociétés civiles, nous disons qu'il faut nous éviter un gouvernement éléphantesque, il faut diminuer le nombre de ministères, et à ce moment-là, avec tout ce monde qui se bouscule au niveau de l'Union sacrée, ça sera des guerres de positionnement, et du coup, quelqu'un va se dire, ben écoutez, je ne sais pas si je serai reconduit, et maintenant c'est l'aubaine, il vide les caisses, il vide tout cela.
Oui.
On m'a dit, oui, les chefs de l'État, la rigueur, ainsi de suite. Mais nos sociétés, souvent, ont une expérience un peu qui décourage. Tout le monde qu'on a dû arrêter dans ces derniers temps par rapport aux actes de corruption ont été libérés, soit graciés, à part Vita Kamere qui est resté. Mais la grande majorité a été libérée, soit graciée, et que nous disons quel exemple on a dû donner par rapport à la lutte contre la corruption. La société civile, à travers DEP, on a dénoncé le phénomène de détournement d'argent au niveau des Transco. Mais après, ce sont les mêmes gens de Transco qui sont pris comme inspecteurs au niveau des finances. Donc tout ça, ça ne peut dire qu'il y a la rigueur, le respect de la loi. On donne un temps que les gens qui ne suivent pas au prix près la gouvernance de notre pays.
Bien, on va accueillir près, Clément.
Nous avons un sentiment de désolation.
On va accueillir Clément Pagna de Kananga. Bonjour Clément.
Bonjour papa.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà, ma préoccupation est la suivante. Vous voyez bien que quand il y a un bien public qui est en état, c'est pour le pouvoir de ce pays-là. Quand quelqu'un a été octroyé, on a donné la chance de devenir petit gouverneur, ministre, quoi que ce soit dans les postes qui sont donnés, n'est-ce pas, ici en République démocratique du Congo, ça pose des problèmes dans le sens que il doit exercer l'exercice de son travail avec ce bien-là, le monnaie, les immeubles, les meubles. Ça dépend tout cela, ça dépend dans le compte de l'État. Ce n'est pas seulement un individu qui doit s'approprier pour y mettre à la main à toute fois quand il y a des missions ou le repère de quelque chose ou la fin de sa mission de ce pouvoir. Alors, il n'a pas dû quitter un mouvement qui doit être normal. Les immeubles, le bien, le monnaie, les dites autres sont réservés pour l'État. C'est pour le pouvoir liberté et bien sûr à cet homme-là. Mais ça ne peut pas garantir quelqu'un, une fois qu'il veut déjà démissionner ou quitter le pouvoir, de s'en prendre un mouvement et dire que tout ceci lui appartient. Non, il doit tout simplement quitter. Il y a même les autres, tant qu'il veut déjà quitter le pouvoir, il doit octroyer le pouvoir, donc la tâche à un de ses partenaires familiales ou comment, pour vite qu'il s'en profite, puisque lui aussi veut déjà quitter, de l'être dans le ministère, exercer comme ça, profiter de l'intérêt et autres. Non, le pouvoir n'est pas comme ça. Tout est social, tout est le même.
D'accord, merci. Merci Clément Pagna. Boudjou Isaac nous a écrit depuis Gabarrière. Il dit, pour mettre fin à cela, il faut redynamiser les services techniques et administratifs avec traçabilité et sanctions pénales en cas de détournement. En cas de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où ceux qui avaient détourné des véhicules étaient poursuivis. C'est ce qu'on veut, la redevabilité. Ernest Mparero.
Oui, effectivement, on peut poursuivre, il n'y a pas de souci, mais nous devons effectivement avoir une législation qui protège tout le monde. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est... Nous ne faisons pas des choses durables. Nous devons faire des choses durables, nous devons avoir la loi. En ce qui concerne, par exemple, le recrutement au niveau des agents de l'État, on doit avoir un mécanisme pour recruter les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nos agents de l'État, nos agents de l'administration publique sont tellement vieux. Si tu pars en province, tu vas voir des papas qui ont déjà 65 ans, 70 ans, mais qui continuent toujours à travailler alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient les remplacer. Donc c'est ces mécanismes de recrutement clairs, transparents, objectif, impartial, que le gouvernement doit mettre en place pour savoir que chaque 5 ans, on doit recruter des agents de l'État. À ce moment-là, nous avons des jeunes qui entrent, nous avons des papas qui sortent. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas ces mécanismes-là, on va toujours avoir des arrêtés qui seront signés le lendemain de votre départ, le lendemain de la démission du gouvernement. On aura toujours parlé, mais on ne résoudra pas les problèmes. Pour résoudre les problèmes, nous pensons au niveau de la LICOCO. Un, on doit légiférer. Deux, on doit mettre en place des mécanismes de contrôle. Et trois, on doit effectivement avoir des mécanismes de recrutement dans l'administration publique.
Ernest Mparero, l'auditeur a donné l'exemple de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui voulait partir avec les véhicules. Et puis, bon, il s'était retrouvé à Makala, en prison.
Effectivement, est-ce qu'il est le seul qui est parti? Est-ce que le gouverneur a été inquiété? Est-ce que le gouverneur n'est pas parti avec les véhicules? Donc vous constatez que on peut faire arrêter X, mais on ne résout jamais les problèmes. C'est comme le cas aujourd'hui, on est en train de contrôler, on fait des contrôles ciblés. Mais si on veut faire les contrôles, on commence où? On commence par le chef de l'État, on doit contrôler la présidence pour savoir pourquoi il y a eu 400% de dépassement budgétaire. Et lorsque la présidence est contrôlée quotidiennement ou deux fois par an, à ce moment-là, que ce soit les chefs de quartier, que ce soit les bourgmestres, que ce soit les gouverneurs ou les ministres, ils seront contrôlés. Mais si on ne contrôle que certaines personnes, on laisse d'autres personnes. On va dire quoi? On va dire que ce sont des contrôles politiquement motivés. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait des contrôles objectifs, nous voulons qu'il y ait des contrôles impartials et globaux pour faire changer la situation, pour faire changer la gouvernance. Or, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce sont vraiment des actes ciblés et isolés qui n'ont pas de l'impact sur la gouvernance. Vous avez vu, lorsque le chef de l'État est entré au pouvoir, l'IGF, par exemple, a dit tout haut que grâce aux exonérations, on peut avoir un budget de 15 milliards de dollars. En 2021, la RDC a eu un budget de 6 milliards. Vous voyez que le dire et la pratique, c'est quelque chose de contraire. Mais si nous mettons en place des mesures, on fait un contrôle objectif, on peut arriver. On peut arriver à ces montants-là. Moi, je vous donne un cas. Si on contrôle, par exemple, toutes les amendes qui sont perçues au niveau des cours et tribunaux, dans toute la RDC, c'est combien d'argent? Si on prend, par exemple, au niveau des sous-SIAT, toute la RDC, c'est combien d'argent? Si on prend au niveau du ministère des Transports, on prend toutes ces autorisations de transport dans tous les taxis, nous avons à peu près plus de 1 million de taxis à Kinshasa seulement. C'est combien d'argent? Mais est-ce qu'on a déjà contrôlé ce genre de choses? Non. Donc, c'est ce que nous disons. On doit faire des contrôles globaux, objectifs, pour effectivement impacter notre gouvernance.
Bien. Je vais lire la réaction de Kabila Baraka. Il dit « Les biens publics restent les biens publics. Le gouvernement a l'obligation de faire le suivi de ses démissionnaires. Ma suggestion est celle-ci. Toute personne qui a soif de pouvoir doit d'abord être riche avant d'accéder au pouvoir. Sans cela, leur seul but sera de s'enrichir. Et c'est là, on voit après le départ, on sait qu'on est des missionnaires, les membres du cabinet s'organisent, il y a beaucoup de transactions qui se font à ce moment-là. Alors, Henri-Christian Longenja, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la réaction des Baraka?
Ouais, bon, en fait, je pense que tout ce qu'ils sont en train de dire, ce sont que des désolations du fait que, comme je disais au début, nous n'avons pas vraiment les hommes d'État patriotes qui pensent que les biens de l'État, c'est les biens de l'État et c'est les biens pour tous, et que même si chez moi, je dois mourir de faim et que les 10 dollars de l'État doivent rester dans la caisse, il faut que ça reste dans la caisse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et que voilà, là où je viens, de là où Ernest parle du contrôle. Oui, bien sûr, Ernest parle de on, mais moi je me dis, les on, là il faut les nommer. Et moi je les nomme dans le sens que les on là, qui doit faire le contrôle normalement, au niveau des institutions, il y a des inspecteurs. Je pense qu'il faut revoir et réviser le rôle des inspecteurs qui ont cette tâche-là de contrôle. Parce que dans chaque secteur, que ce soit au niveau de la justice, il y a des inspecteurs judiciaires qui sont là. Et au niveau de l'enseignement et partout, il y a des inspecteurs qui ont ce rôle-là de contrôle au quotidien, le contrôle à l'interne. Et que ce contrôle-là, je pense que ça devrait être élargi au lieu que ça soit limité à des domaines. Donc, ils devraient contrôler tout ce qui concerne le secteur. Si on est dans la justice, tout ce qui concerne la justice et l'argent et les moyens, les matériels, ainsi de suite. Et même ce qui est géré par les ministres. Tout ce qui concerne, par exemple, au niveau de l'éducation, la même chose. Mais la difficulté, c'est que on met les inspecteurs sous tutelle des ministres et que lorsque les ministres viennent, l'inspecteur vient contrôler, par exemple, l'avoir ou les histoires des ministres, ça pose problème. C'est comme ça que je dis, les premiers contrôleurs administratifs, ce sont les inspecteurs de chaque secteur et qu'il est important qu'on puisse valoriser la fonction des inspecteurs dans notre pays. Parce que notre pays, on a mis les inspecteurs dans tous les secteurs trop bas, sauf après qu'on commence à relever un peu les inspecteurs des finances, mais les autres inspecteurs sont les abandonnés à leur triste sort, alors que partout au monde, quand on voit un inspecteur d'État se débarquer de vous et chez vous, vous commencez à trembler, c'est qu'il y a un problème. Mais ici, aussi longtemps qu'on ne va pas encore arriver à ça, c'est difficile qu'on parle du contrôle. Et alors, donc, là, de ce côté, il faut valoriser. De l'autre côté, qu'il faut aussi du contrôle qui a fait ses preuves, comme je disais, c'est le contrôle citoyen. Le contrôle qu'est fait au quotidien la société civile et le contrôle que doit faire les lanceurs d'alerte, donc la population. Mais nous disons, cette population, la société civile, est habitée par toute équité du secret parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, je peux aller auprès de la Cour de cassation ou de la Cour constitutionnelle demander les actes de déclaration des biens du gouvernement sortant, des membres du gouvernement sortant, et qui vont me donner, ils vont dire sur base de quoi. Alors que la même constitution dit que toute personne a droit d'accès à l'information.
Henri-Christian.
Donc, voilà pourquoi il est important qu'on ait tous ces outils-là pour assurer un bon contrôle, notamment la loi d'accès à l'information, pour que tout le monde puisse aller demander à la sortie comme ça, je peux aller demander, et qu'on me les donne, ça devient une obligation. Je pense que si on voulait moderniser le pays, qu'on peut arriver à tout ça. Mais à l'allure où nous voyons les choses, nous avons les gens qui font des affairistes, qui dirige
Henri-Christian. Henri-Christian.
Oui.
Certains disent que ce ne sont même pas les ministres, les membres du cabinet qui s'organisent pour emporter les ordinateurs, les chaises, les rideaux, les moquettes et autres à l'insu du ministre.
Écoutez, le ministre est d'abord du point de vue constitutionnel le chef de son département et que tout ce qui se fait dans son ministère, il est le responsable. Et lorsque au niveau du cabinet, c'est lui le numéro un. Lorsque les moquettes sortent, mais qui les font sortir? Lorsqu'on va faire la remise des reprises, mais le ministre a besoin d'avoir le patrimoine du ministère pour faire la remise des reprises. Mais est-ce que ces manquettes et tout ça, ces biens-là, n'étaient pas répertoriés dans l'actif ou soit le patrimoine du ministère? Le ministre est au courant. Mais si on emporte un ordinateur qui servait, ou même lui, le ministre se servait avec, il ne va pas dire que c'est le conseiller. Le conseiller n'a fait que transporter. Alors, donc, sous d'autres siens, lorsqu'un gouvernement est député des missionnaires comme ça, sous d'autres siens, on dit non, ils stoppent et les secrétaires généraux d'office prennent la relève en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement. Mais le problème aussi, c'est que dans notre pays, on va se dire, mais les secrétaires généraux ont même peur des ministres, alors qu'ils sont des autorités administratives qui demeurent, les ministres passent. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Donc on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça sur le dos d'un conseiller ou d'un chargé de protocole qui prend tel ou tel matériel ou objet. Mais j'estime que c'est la responsabilité première du ministre, parce que lorsque ces histoires sortent du bureau, le ministre est au courant. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas le ministre. Et il est important qu'on puisse continuer à faire les suivis plus tard. Mais, et que ces suivis-là, même au niveau de la justice, que ça ne soit pas sélectif, comme nous sommes en train de voir des suivis sélectifs. Où on suit les uns et les autres, on ne les suit pas. Et surtout que ceux qui sont allés à l'Union Sacrée peuvent penser qu'à l'Union Sacrée, ça devient la cave où on va se cacher et contre toute poursuite. Et à ce moment-là, ça sera du FCC de triste mémoire. Donc je pense bien que même si on est allé à l'Union Sacrée, qui nous donne des exemples, et qu'un ministre de l'Union Sacrée qui est en train d'être poursuivi, ou soit un membre de l'Union Sacrée, qui soit ministre ou pas, est en train d'être poursuivi pour des cas de détournement et de vol. Et là, on peut espérer. Mais dans les cas contraires, dans cette solidarité politicienne, où on se dit, bon, c'est l'Union Sacrée, les loups ne se mangent pas, entre eux, on ne peut pas montrer les faiblesses de l'Union Sacrée aujourd'hui, sinon on va se fragiliser, et c'est le pays qui sera fragilisé.
Bien, on va accueillir Maître Edmond Bokolo de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à l'invité.
Bien, nous parlons des abus constatés lors de la démission d'un gouvernement. Lorsqu'un gouvernement est réputé démissionnaire, il se passe beaucoup de choses. Les gens emportent les effets du bureau, les objets du bureau et autres. Quelle est votre réaction à ce sujet? Maître Edmond?
Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, merci. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai suivi les différentes interventions. Bon, à mon humble avis, je pense que les problèmes ne se posent pas au niveau de la déclaration du patrimoine de chaque ministre, parce que là, la question est déjà résolue. Je crois que la question, c'est comme actuellement, lorsque le gouvernement est démissionnaire, il y a ceux qui liquident, ceux qui aliènent ou ceux qui détournent certains biens de l'État. Bon, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est une faiblesse de la présidence, parce que une fois que l'entrée d'un nouveau gouvernement, en fait, il faut que la présidence de la République puisse établir un état des lieux pour savoir le patrimoine mobilier ou immobilier de chaque ministère. Et puis, durant le mandat, il faut une commission pour procéder à tout moment à l'identification ou à l'inventaire des biens de chaque ministère. Et c'est ce qui permettra, dès la fin du mandat, comme actuellement, une fois que le gouvernement réputé démissionnaire, pour avoir encore cette commission pour établir un autre état des lieux, bien sûr, en fait, de savoir s'il y a des tournements ou il n'y a pas de tournements. Parce que j'ai suivi les gens lorsqu'ils parlent, il faut initier une loi, une proposition, un projet. La question est déjà résolue. Nous avons l'article 145 du Code pénal qui prévoit le détournement des deniers publics. Les deniers publics ne font pas allusion tellement à l'argent, ce qui est le pécun et à l'argent. Les deniers publics, c'est tout ce qui est mobilier ou tout ce qui est immobilier de l'État. La question est déjà résolue. C'est question seulement d'asseoir les mécanismes qui peuvent permettre à tout moment d'identifier les biens de l'État qui sont mis à la disposition de chaque ministre. Et à la fin, une fois que le ministre sort sorti ou quitte le gouvernement, on fait également un autre état de l'État. On constate que certains biens n'y est pas ou sont détournés, c'est à un moment qu'on fait les procédures judiciaires. Et puis, en ce qui concerne les recrutements, tous les recrutements qui se font actuellement doivent être déclarés. Même d'ailleurs, le communiqué ou les mesures conservatoires prises par le cabinet du président de la République, ce sont des mesures qui sont éloquentes. Parce que j'ai suivi un des invités qui dit que non, il ne sait pas si ce sont des mesures qui proviennent du président ou du cabinet. Tout ce qui provient du cabinet, on présume, c'est une supposition, on présume que ce sont des mesures qui proviennent du président.
Bien. Maître Mbokolo, quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique, mais on a quand même eu l'essentiel de ce qu'il voulait nous dire. Ernest Imparairo, votre réaction?
Oui, effectivement, notre collègue ou notre ami de Mbandaka il faut effectivement le code pénal lui-même, il est hyper faible. On est en train d'ailleurs de proposer une révision parce que il y a plein de faits de corruption qui ne sont pas dans les codes pénaux. Par exemple, vous avez suivi un cadeau, on te donne une Jeep. Toi, tu es agent de l'État. Moi, je viens Ernest, je donne à un agent de l'État une Jeep. S'il y a passation des marchés, cet agent va dire quoi ? Va m'appeler d'abord. Parce que c'est moi qui lui ai donné un cadeau d'une Jeep. Or, dans plusieurs lois, dans plusieurs États, dans plusieurs pays, on limite les cadeaux que les agents de l'État doivent recevoir. Ça, c'est un. Secondo, l'article 99, la déclaration des biens, est constitutionnelle, mais la mise en application de cet article n'est pas encore mise en application. Aujourd'hui, le ministre ou le président Tshisekedi déclare X, bien comme notre confrère, notre collègue Harry l'a dit, mais personne ne contrôle, personne ne sait qu'à la sortie, s'il a le même bien. C'est ça le grand problème. On a vu, on a créé des fondations comme Harry l'a dit. Il y a des ministres qui viennent, ils n'ont pas de fondation. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, nous-mêmes, nous avions été effectivement menacés lorsqu'on a dénoncé les actes de l'ancien ministre de l'Intérieur. Il y a eu une fondation, si c'est Kassayen, si c'est quoi, qui nous a menacé de porter plainte contre Lali Coco. Bon, qui finance ces fondations-là? C'est ça la question qu'on s'est posée et c'est ce qu'Harry voulait dire. Or, tout dans cette loi, on peut tout régler par la loi et tout le monde va suivre. Et les structures de contrôle seront édictées dans cette loi, à ce moment-là, ça devient propre. Prendre des décisions, effectivement, sont des décisions préventives, mais ça ne résout pas les problèmes. C'est vraiment des décisions qui ne sont pas pérennes. C'est ce que nous disons. Nous disons que nous devons avoir une loi, comme dans tous les autres pays, nous devons avoir la loi. La loi doit être accessible. Et les déclarations doivent être accessibles au public, comme le disait Harry. Et nous devons le contrôle citoyen pour dire, écoutez, telle personne est entrée, il avait une maison, il est sorti, il a déjà 4 plantations à l'intérieur. Il a trouvé l'argent pour ces plantations où ? Et des structures doivent suivre, et s'il est coupable, il doit être poursuivi au niveau judiciaire. C'est ce que nous disons. Le pays fonctionne par la loi et le respect des lois. Faire autre chose, ce n'est pas vraiment pérenne, et ça donne à interprétation comme si c'est de l'injustice. Parce que ce n'est pas régulé.
Bien, Clovis Zidisha, depuis Baraka, au sud Kivu, nous dit ceci, pour éradiquer le système d'embauche informelle, que le système soit électronisé et contrôlé par la présidence, et c'est là pour tous les ministères, pour les biens matériels, que l'on fasse des audits avant la remise et reprise. En conséquence, traduire en justice tout ce qui n'ont pas bien géré ou qui ont fait disparaître les biens de l'État. Dadi Boudjou, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour.
Oui, allô, bonjour. Bonjour.
On vous écoute.
Le sujet d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup plus que le temps. C'est un sujet qui parle d'un problème que moi-même, je me suis toujours posé comme question. En fait, nous avons des services qui sont chargés de gérer les biens de l'État. Entre autres, les services techniques administratifs. Ça, c'est un peu un service qu'on est en train d'oublier ou soit d'ignorer au niveau de province, à tel point que les gens se permettent de prendre les biens de l'État et de partir avec ça. Entre-temps, ça frustre même ceux qui sont en train d'observer ou encore de voir les gestionnaires agir au nom de l'État. Et lorsqu'ils partent, ils partent avec ces biens-là. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas des bons exemples. Je dirais aussi qu'il faut qu'il y ait des suivis dans tout ce que nous faisons. Une traçabilité, quoi. Lorsqu'il y a des biens qui s'achètent, on les voit entrer dans le bureau et on les consigne. Je sais qu'au Congo, il y a des textes qui réglementent même ce secteur-là d'acquisition des biens en faveur de l'État congolais. Mais que faisons-nous de ces textes? Donc c'est toute une remise en question de beaucoup d'aspects et des textes, et moi-même comme aussi. Peut-être un inspecteur d'État. Moi, si je suis un inspecteur, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de textes qui réglementent beaucoup d'aspects. Souvent, nous avons tendance à ne pas les reconnaître. Donc, c'est un peu ça.
Bien, merci Dadi Boudjou. Quelqu'un est revenu tout à l'heure sur les recrutements. Henri Christian, est-ce que lorsqu'on est réputé démissionnaire, c'est à ce moment-là qu'il faut recruter les gens ou faire des mises en place?
Bon, je pense pas que lorsqu'on est réputé démissionnaire qu'il faut commencer à engager l'État. Bon, bien sûr, les autres me diront que mais lorsque Trump est parti, il partait à 14h et le matin, il signait des arrêtés ou des décrets, je ne sais pas, qui libéraient même, qui amnistiaient les gens pendant qu'ils savaient que dans quelques heures, ils quittaient la Maison Blanche, alors qu'ils excédaient aussi les affaires courantes. Mais notre système n'est pas un système américain. Mais je pense bien que lorsqu'on est réputé démissionnaire, on ne peut pas continuer à engager l'État, tout simplement parce que pour éviter des principes où aujourd'hui, on donne plus d'intérêt à sa propre famille, à son propre clan. Mais je ne suis pas d'avis par rapport à l'auditeur qui disait « Non, il faut qu'on puisse informatiser le système de recrutement et que les fichiers soient contrôlés par les chefs de l'État. » Non, nous devons éviter ça. On sait bien que les chefs de l'État, c'est les chefs de l'exécutif, bien sûr, mais les chefs du gouvernement qui est le premier ministre. Et en plus de ça, on a l'impression que dans notre pays, on veut donner trop de pouvoir, les tout aux chefs de l'État, les chefs de l'État, alors que même les chefs ne peuvent pas faire. Les recrutements, c'est partout, même au niveau des cabinets du chef de l'État, même au niveau des cabinets du premier ministre. On déplore toujours des recrutements abusifs. Donc moi, je pense qu'ici, c'est question d'éthique. Et c'est question aussi de se tenir en tête. Parce que dans chaque institution, il y a l'organigramme institutionnel qu'il faut respecter et que le recrutement doit tenir compte de cet organigramme institutionnel et doit tenir compte des besoins.
Et Henri Christian,
chez nous, ce n'est pas le cas.
Qu'est-ce qui explique les mises en place? On bouge les gens, on met les gens à gauche, à droite au sein du ministère.
Oui, mais effectivement, tout ça, c'est, si je peux appeler l'avarice ou soit le... la mauvaise foi de nos dirigeants qui veulent qu'avant de partir, ils doivent positionner les leurs pour les laisser dans de bonnes conditions, tout en oubliant que les leurs sont aussi congolais, comme ces congolais qui sont dans les postes. Et donc, c'est ça le grand problème. Et autre chose, notre ami de Mbandaka a parlé même du contrôle du patrimoine. Et l'auditeur de tout à l'heure qui s'est présenté comme inspecteur. Je prends seulement le cas de l'inspecteur de l'EPST que je connais un peu mieux. L'inspecteur se limite à contrôler le patrimoine seulement des écoles. Lorsqu'il va faire le contrôle, il contrôle le patrimoine des écoles seulement. Mais le patrimoine du ministère, l'inspection ne contrôle pas. Alors qu'il est c'est l'inspection du ministère, ce n'est pas l'inspection des écoles. C'est l'inspection de l'EPST, ce n'est pas l'inspection des écoles. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai dit, il faut valoriser la place des inspecteurs dans ces pays et dans chaque secteur. Parce que même si dans ces patrimoines, l'inspecteur, par exemple, de l'EPST avait le rôle de contrôler même les patrimoines de l'EPST, savoir qu'est-ce que l'EPST a comme avoir, ainsi de suite, quel patrimoine, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on manque pour atteindre les objectifs de l'éducation, ainsi de suite, et quels sont nos biens, on n'aurait même pas vendu la place de l'inspecteur général et qu'on a donné, je ne sais plus, aux Chinois ou quoi pour construire des immeubles et aller construire à l'inspecteur général, si je peux appeler ça, c'est pas des bureaux, des hangars, tout ça est confré, tout le monde est là-bas qui ne savent même pas travailler pendant ces temps de Covid. Donc tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas valoriser le rôle et la fonction de l'inspection dans chaque secteur. Pourtant, c'est la police administrative qui est censée contrôler tout ça. On est des inspecteurs. Nous avons les magistrats. Mais les magistrats, jusque-là, je prends les magistrats de la Cour des comptes. Jusqu'aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas encore reçu leur serment, alors que ça fait autant d'années. Or, pourtant, ce sont ces magistrats de la Cour des comptes qui devraient aussi s'en charger de tous ces cas d'infraction, contrôler et se saisir d'office.
Oui, Henri Christian, permettez que nous puissions accueillir... Henri, on va accueillir Gracia Bakajika de Kisangani. Bonjour, Gracia.
Bonjour, M. Jody Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
On vous écoute, Gracia.
Ah oui, il faut savoir que dans tout le ministère gouvernemental, il y a d'abord le personnel permanent qui font carrière et puis il y a le membre du cabinet ministériel qui ont un mandat bien déterminé. Et lorsque le mandat du membre du gouvernement prend fin, ou soit le gouvernement est réputé démissionnaire, avant que ce membre quitte ses postes, l'évaluation des biens publics et de toute dernière décision doit se faire entre le personnel permanent et le membre du gouvernement sortant et le membre du gouvernement entrant pendant la remise et reprise pour permettre la bonne continuité des affaires de l'État. Et au cas où le membre du gouvernement sortant ne justifie pas l'absence de certains biens publics et l'irrégularité de certaines décisions laissées, les personnels permanents peuvent faire rapport à la hiérarchie ou soit à la justice. Et heureusement, l'inspection générale des finances est là. Elle peut déjà commencer à faire son travail sur le contrôle des derniers publics laissés par le gouvernement sortant. Et l'acte de recrutement politique et familial et au sein du ministère est une habitude qui détruit les actions gouvernementales. Parce que ces personnes qui sont engagées par certains membres du gouvernement, elles travaillent beaucoup plus pour rendre compte à la personne qui lui avait engagé, au lieu de travailler pour l'intérêt de la nation.
Merci, Gracia. Ernest Impareo.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on est en train de déplorer. Et vous venez de l'écouter, tous les auditeurs ne font que dire. Et pour résoudre cela, c'est comme ça que nous disons, nous devons avoir un mécanisme de recrutement des agents publics de l'État. Il n'y a que, en RDC, il n'y a que le ministère de la fonction publique qui est habilité à recruter. Donc, même si on vous recrute au niveau de la santé, on vous recrute au niveau de l'éducation, aussi longtemps que tu n'as pas le numéro matricule de la fonction publique, tu n'es pas agent de l'État. Donc, on devrait mettre en place, le gouvernement qui entre doit mettre en place des mécanismes de recrutement transparents pour éviter ce genre de choses, pour éviter que X ministre, lorsqu'il sait s'il est à l'habitat, s'il est à l'économie, s'il est à la recherche scientifique, s'il est aux affaires sociales, il recrute que les siens. Tout cela doit être évité parce que tout le monde sait que après 3 ans, on évalue ceux qui partent en pension, on évalue les personnels qui restent et on évalue ce qu'on peut recruter. C'est comme ça qu'un gouvernement fonctionne. Mais ici, chez nous, vous constatez qu'il y a plusieurs années, on ne recrute plus. Maintenant, les jeunes là, qui sont en train d'aller dans les Koulouna, qui sont en train d'aller dans les groupes armés à l'est du Congo, quand est-ce qu'ils trouveront l'emploi? Si on ne fait pas ce genre de choses. C'est comme ça que nous soutenons, nous ne sommes pas d'accord avec les recrutements politiques, mais nous demandons au gouvernement de mettre en place un mécanisme de recrutement général. On recrute, par exemple, au ministère de l'Environnement, ça doit être public avec des critères bien définis. Les jeunes vont concourir et ceux qui vont réussir, on les embauche. C'est comme ça qu'on va rajeunir notre administration publique, surtout en province, là où nous avons des papas qui ont déjà fait 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui travaillent toujours.
Merci Ernest Impareo. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO. Merci d'avoir participé à cette émission et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.
Henri Christian, on va conclure avec vous dans 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion?
Oui, en conclusion, je pense bien que si on veut moderniser ces pays, on doit mettre fin à tous ces antivaleurs et que ce que nous appelons des excellences parce qu'ils deviennent des ministres doivent être vraiment demeurés dans la logique des excellences, même à la sortie à la fin de leur pouvoir. Mais comme nous sommes dans un état de droit, il est important que les lois soient appliquées et que je pense bien que la loi portant déclaration des biens, il faut prendre les mesures d'application, soit une loi, et pour permettre que le contrôle soit populaire par tout le monde, il est important, si le chef de l'État veut vraiment un changement avec l'Union nationale, que la première loi qui soit votée soit la loi d'accès à l'information qui va permettre à tout citoyen de faire le contrôle. Et en matière de recrutement, c'est comme Ernest disait tout à l'heure, ce n'est pas la présidence, il y a le ministère de la fonction publique qui doit jouer son rôle. Et dans tout ça, il faut valoriser la fonction de l'inspecteur d'État. Et c'est là où on aura une administration moderne.
Bien. Henri-Christian Longenja, expert en éducation civique et coordonnateur du collectif 24, une structure qui milite pour le droit d'accès à l'information. Merci et à la prochaine.
Merci et merci à tous les auditeurs.
Bien, dans la seconde partie de cette émission au Capi Service, nous allons parler de la protection des zones humides de la République démocratique du Congo. Vous voulez participer à cette émission? Le standard est ouvert. Composez les 081 890 63 94. Nous allons suivre tout à l'heure le bulletin d'information. On va se retrouver juste après pour la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien au Capi Service.